plus léger que l'air. Prenez l'air sur RCF avec Gilles Berger.
Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de Plus léger que l'air, nous démarrons avec Manu Ars. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable fondateur, c'est le terme qui est le plus approprié, de l'école Vélos qui est située sur l'aérodrome de Tallard. La question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment en êtes-vous venu à créer une école qui parle de chute libre ?
Mon parcours est un petit peu atypique. À l'origine, j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Je pratiquais le parachutisme comme sportif, puis comme compétiteur, et la passion m'a mangé en quelque sorte. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de mon implication en équipe nationale, j'ai abandonné mon travail d'origine, et puis au sortir d'une dizaine d'années en équipe nationale, j'ai eu l'envie de poursuivre dans ma passion et de la faire partager à d'autres personnes. Donc, je me suis sédentarisé sur Tallard, qui était mon lieu d'entraînement principal. Et puis aussi et surtout parce que c'est le meilleur endroit en France, en métropole en particulier, pour faire du parachutisme.
Ah, c'est vrai que les auditeurs qui ne pratiquent pas ont peu d'idées de ça, mais Tallard, c'est un spot européen.
C'est un spot mondial, mais c'est l'un des endroits les plus connus au monde. C'est, si on parle de Osgore Cap-Breton pour la mer, on va parler, ou de Hawaï, on va parler de Gap Tallard dans le monde entier pour le parachutisme. Il y a déjà eu des championnats du monde, des coupes du monde, on a une météo exceptionnelle, on a un endroit vraiment, vraiment très connu. Ouais.
Et moi j'avais été à Royan également, j'ai fait même un stage PAC, et apparemment ça serait quand même en concurrence avec Royan.
Alors Royan Médis, c'est l'un des 55 centres de parachutisme qu'on a en France. Il fait partie, on va dire, il se classe sans doute au niveau du 10e centre parachutisme français, Gap Tallard étant le premier d'entre eux.
En définitive, cette école que vous avez créée, vous imaginiez quel éventail d'activités au départ ?
À l'origine, j'avais envie d'en faire quelque chose qui aurait pu être un peu à la pointe de la technologie, vu mon métier d'origine, et puis à la pointe de la technique, étant donné le parcours de compétition que j'avais. Je me suis associé à des amis qui étaient en équipe de France avec moi pour monter quelque chose où on essaierait d'être à la pointe de la réflexion. Voilà. Donc que ce soit dans le domaine de l'enseignement pour des tout débutants, ou de l'enseignement pour des confirmés, ou des gens qui pratiquent de la compétition, ou même de la formation professionnelle. Et finalement, ce projet qu'on avait à l'origine, on y est resté assez fidèle, en le développant petit à petit, et on couvre l'enseignement sous toutes ses formes.
Et à la pointe, comment est-ce qu'on peut arriver à la pointe d'un enseignement aussi connu que le parachutisme ?
Alors, on essaye de réfléchir à nos méthodes d'enseignement, de prendre un petit peu de recul en tant que formateur, ce que tout le monde fait, mais on essaye de tester de nouvelles choses aussi, ce que nous permet éventuellement un petit peu notre bagage technique qui est particulier. On essaye aussi d'y apporter quelques nouveaux outils pédagogiques. Par exemple, si l'outil de la vidéo, il y a quelques années, n'était pas très répandu, aujourd'hui tout le monde y a recours, mais l'enseignement à l'aide de vidéos, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore beaucoup. Ou le recours, par exemple, à Internet comme support d'information. On a un site qui fait près de 2000 pages d'information, donc c'est tout ce qu'on met autour aussi de la chute libre et pas simplement à partir de l'avion. Quoi.
Et 2000 pages d'information, en définitive, ça couvre quel type d'information ?
Sur les pages d'information, je dirais, il y a deux formes. Il y avait une partie statique qui est une autre dynamique, c'est-à-dire que les news au jour le jour, c'est une partie des informations qui effectivement fait beaucoup de volume, mais qui n'est pas la plus intéressante pour des visiteurs. Ça, c'est juste pour des gens qui sont dans l'activité. Pour des visiteurs, ça couvre la présentation des différentes disciplines, la présentation du BABA pour commencer à faire du parachutisme, des articles techniques, une réflexion sur l'enseignement, un peu de tout. Quoi.
Une des activités, c'est également l'entraînement pour les compétiteurs de haut niveau, je pense.
En fait, c'est même notre activité principale. Ça reste notre passion, la compétition dans une discipline qui s'appelle le vol relatif. Alors le vol relatif, c'est quand on quitte l'avion à 4, à 8 ou à 16 personnes et qu'on a des figures imposées à faire. C'est une course contre le chrono, ça n'a strictement rien d'artistique. Mmh. Et en 50 secondes, si on a fait 20 figures, on a 20 points. Et notre métier, c'est vraiment de préparer les gens au vol relatif à tout niveau.
Et l'enseignement de ce vol relatif doit se faire principalement au sol ?
Effectivement, on est un sport où la mise en action, elle est vraiment très brève. Donc ça demande une intensité de préparation. Alors soit on le fait sur un centre de parachutisme où on va passer trois quarts d'heure, une heure à préparer chaque saut, à répéter en particulier sur des planches à roulettes, parce que comme il faut qu'on soit allongé en l'air pour simuler ça, on va avoir des petites planches à roulettes qu'on met par terre et on répète nos figures de cette sorte. Soit on peut avoir recours, mais il n'y en a qu'un seul en France pour le moment, un simulateur de chute libre, et dans lequel en fait c'est une grosse veine d'air propulsée par des turbines, c'est une soufflerie. Et dans ces cas-là, le flux dure beaucoup plus longtemps parce qu'on n'est pas, on n'a pas à se cantonner aux 50 secondes que nous offre la chute libre quand on va de 4000 mètres jusqu'à 1200 mètres.
Mmh. Et on se pose la question, est-ce que rentrer dans ce flux d'air, c'est la même chose que sauter de l'avion ?
Alors la différence entre la soufflerie et le saut d'avion, le flux d'air lui-même sera le même dans la mesure où il est avec la même densité, la même vitesse, la même force d'appui, la même régularité. Par contre, l'environnement est complètement différent. Alors, l'environnement physique, bien sûr, parce qu'on est dans un endroit clos, parce qu'on ne se jette pas d'un avion qui marche bien, et aussi parce qu'on est limité dans l'espace en soufflerie. Par contre, en soufflerie, on n'est pas limité dans le temps. Et puis, la différence principale, finalement, c'est l'environnement psychologique, surtout pour quelqu'un qui voudrait faire un baptême dans un simulateur de chute libre, il n'y a rien à faire, c'est un tour de manège, on n'a pas à vraiment à prendre sur soi, tandis que quelqu'un qui fait la démarche de venir sauter d'un avion, c'est quelque chose où il faut vraiment avoir envie de le faire. Mais par contre, si on a envie de le faire, ce qui est garanti, c'est qu'on a le sourire quand on arrive en bas. Je connais pas une personne qui saute d'un avion qui n'ait pas le sourire en arrivant au sol.
Moi qui ai fait un petit stage PAC, donc qui est pris sur moi pour me jeter d'un avion, alors que d'habitude je pilotais les avions. Pour la soufflerie, pour un débutant, comment est-ce qu'on le met dans le flux d'air ?
Pratiquement, alors on a une brève formation, ça dure juste 3 minutes, on explique à la personne que si elle s'allonge, qu'elle lève la tête et qu'elle tend les jambes, ça suffira pour qu'elle soit stable et équilibrée. Maintenant, pour qu'elle ne se mette pas à déraper un peu partout, nous les moniteurs, on est équipés de boudins sur les bras auxquels elle s'agrippe. On se met debout au bord de la veine tous les deux. Il m'attrape un boudin sur chaque bras, je me mets à l'air et je l'amène avec moi et on se retrouve face à face allongé sur l'air. Bienvenue en chute.
Ça paraît formidable comme ça.
D'être
aussi rapide. Mais si on fait des couillonnades, est-ce qu'on peut dériver, se cogner dans les bords ?
En fait, de l'air à 200 à l'heure, c'est pas anodin. Alors imagine des appuis sur tout ton corps, non pas à 130 mais à 180 ou 200 à l'heure. On a une surface extrêmement efficace. C'est pour ça qu'on ne se met pas à l'air tout seul dans un simulateur de chute libre. Et les moniteurs qui font ça sont extrêmement compétents avec des milliers et des milliers de sauts. Et ils compensent en fait l'inexpérience de l'élève.
Moi, je me rappelle que quand j'avais fait mon petit stage PAC, j'avais une tendance à ne pas faire ce qu'il fallait et me retrouver sur le dos, et à ne pas réussir à revenir du dos. Est-ce qu'on a ce type de problème avec la soufflerie ?
Ni dans l'un ni dans l'autre, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup d'élèves qui restent sur le dos, qui n'arrivent pas à revenir à plat. Je pense que, en fait, la pédagogie a énormément évolué depuis ces dernières années en France. L'école française, elle est vraiment à la pointe au niveau mondial. Je pense que l'école française peut être très fière de ses méthodes d'enseignement. Donc, sans doute parce que pendant des années, le parachutisme était un peu appréhendé comme une activité virilisante où il fallait accepter de prendre par-dessus sa peur et ce genre de choses. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est considéré comme une activité de glisse, où on est dans un fluide, où on apprend, comme on apprendrait à nager dans l'eau, on apprend à nager dans l'air. Et le parachutisme, au début, c'est 20% de technique et 80% de psychologique.
D'accord. Alors que quand je l'ai pratiqué, les gens vous laissaient dans le bouillon, quoi. Donc, on avait l'impression que techniquement, c'était dur. J'ai envie de vous demander, ce qu'on voit dans les émissions extrêmes, avec ces gens qui volent très proche du sol, avec des combinaisons en forme
d'ailes.
Voilà, oui. Quelles sont les sensations et comment est-ce qu'on peut arriver à ça ?
Alors, les combinaisons ailées, pour faire un petit préambule, il y a Loïc Jean-Albert, qui est le meilleur parachutiste au monde. Et c'est pas moi, son ancien équipier, qui le dit, ce sont même les Américains qui l'ont reconnu dans leur magazine. Alors, pour que les Américains nous le concèdent, c'est quelque chose. Loïc, c'est quelqu'un qui est installé sur Talar, avec un autre ancien équipier à nous qui s'appelle Stéphane Zunino. Et Loïc, c'est lui qui a inventé la combinaison ailée, qu'en anglais on appelle wingsuit, monobloc, parce qu'avant, Patrick de Gaillardon avait déjà des ailes entre les bras et les jambes, mais Loïc a fait évoluer son modèle sur quelque chose de beaucoup plus performant. Et celui qu'on voit sur toutes les télés aujourd'hui, raser le relief. Comment ça fonctionne, en fait ?
Mais c'est lui qu'on voit alors en définitive.
La plupart des reportages que tu verras, c'est vraiment Loïc, parce qu'il est un cran au-dessus de tout le monde, mais il est extraordinaire. Non seulement de compétences d'ailleurs, mais aussi d'humilité, si vous avez affaire à lui. Et comment ça fonctionne ? Le corps, en fait, va recréer une structure avec de la toile autour, qui est une structure portante, comme n'importe quelle aile d'avion ou du LM. Et puis, on a beau dire que du tissu, c'est un peu mou, c'est notre corps qui va l'étarquer. Ça, c'est un terme de marin. Si le terme étarqué vous parle, qui est de, par exemple, rigidifier une voilure de sailboard ou de funboard, de la même manière, on va étendre les bras, les jambes, de façon à créer un bord d'attaque, un bord de fuite et un profil qui soit vraiment porteur. Ça nous permet d'atteindre des finesses très intéressantes, de l'ordre, on va dire, de 3-4. Ça signifie que quand on descend un kilomètre, on peut avancer 3 ou 4 kilomètres.
Et du coup, cette sensation d'être très proche du relief, c'est la sensation recherchée, quoi.
Alors, ça, c'est pour la partie surtout démonstrative. Alors, je reviens juste sur la finesse. 3-4, c'est ce que peut faire Loïc. Le commun des pratiquants sportifs aura du mal à atteindre 2 en finesse. Et d'ailleurs, personne ne joue à proximité du relief comme Loïc. Personne ne sait le faire parce qu'il faut un matériel très particulier. Il faut être sûr de sa technique. Pour l'ensemble des gens qui, comme moi, alors que je suis pourtant formateur en wingsuit, je n'emmène les gens que jusqu'à 1200 mètres et ils ouvrent à 1200 mètres. Ils ne vont surtout pas jouer avec le relief parce qu'au contraire d'une activité normale, on est même encore plus engoncé, coincé, les bras, les jambes, parce que ce n'est pas un équipement anodin d'avoir une wingsuit. D'ailleurs, on réserve l'initiation à cette activité-là, qu'aux gens qui ont un minimum de 400 sauts, par exemple. Voilà. Donc, ce que fait Loïc, ça s'apparente à de la cascade.
C'est bien qu'on en parle parce qu'on a l'impression que tous les pratiquants de wingsuit vont près du relief, ce qui n'est pas le cas du tout, quoi.
Non.
On va en venir à notre question rituelle de notre émission. Quel a été le plus beau vol que tu as pu faire dans ta carrière ?
J'ai plein de très bons souvenirs. J'ai des souvenirs très bons avec des élèves à partir du moment où je sens qu'ils vont enfin pouvoir voler de leurs propres ailes et leur sourire me récompense amplement. Et j'en ai un autre qui est lié à la compétition et qui m'arrive à chaque fois que je passe une porte d'avion en compétition. On accumule une telle pression vers la réalisation d'un geste collectif, puisqu'on est 8. Quand je me mets en place à la porte d'avion, on a une pression très très forte et finalement ce qui est libérateur, c'est de passer la porte de l'avion. Et là, je me suis bien, je suis chez moi, dans mon élément, avec mes équipiers, et le fait de quitter la porte de l'avion dans quelques compétitions que ce soit, c'est extrêmement jouissif.
On va rester sur cette note. Merci Manu Ars d'être venu nous parler de votre milieu aéronautique.
Sur Terre.